Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Voilà, et on se retrouve avec nos invités pendant que je m'installe tranquillement, nos débriefeurs qui sont là ce soir pour tous ces sujets. On est avec Frédéric Bianchi, bonsoir.
Bonsoir Frédéric. Frédéric,
merci d'être avec nous, qui a juste descendu deux étages, parce que c'est journaliste chez BFM Business. Avec nous ce soir, Claudia Cohen, bonsoir Claudia.
Bonsoir.
Journaliste au Figaro, et ben voilà, il y a pas mal de choses que tu écris chaque semaine, mais cette semaine on va revenir notamment sur certains de tes articles. Et puis Didier Sens, bonsoir.
Salut.
Didier, journaliste de la tech. À un moment, j'avais vu un sujet sur Atari qui revenait. Je me suis dit, tiens, ça va être un sujet pour Didier. Et puis bon, la news datait un peu.
Le dinosaure, c'est ça.
Le dinosaure, voilà. Allez, on va parler aux anciens. Hier soir, on fêtait la fin de l'ICQ,
oui,
qui terminait ses 30 ans. Et c'était le 26, donc on a fêté tout ça. Alors ce soir, on va parler d'un sujet que vous connaissez tous, hein, sont les câbles sous-marins. On les emprunte tous les jours, sans vraiment le savoir. Et puis là, bien, c'est Nokia qui cède Alcatel Submarine Networks à l'État français. Alors Alcatel, parce que Nokia avait racheté cette partie Alcatel, ensuite c'est revenu chez Nokia, et puis l'État a décidé de reprendre la main là-dessus. On va en parler ensemble. On reviendra aussi, tiens, sur une news, d'avoir si c'est important ou pas, parce que beaucoup, je regardais la presse américaine, elle rebondissait beaucoup dessus, c'est Google Traduction qui va parler breton, moi ça m'arrange, occitan pour ceux qui sont plus dans le sud, créole, qui va rajouter plus de 100 langues, hein, et on va voir si c'est important ou pas, parce qu'évidemment il y a de l'IA autour de ça, mais qu'est-ce que ça veut dire derrière? Est-ce que c'est juste pour préserver un patrimoine culturel, ou est-ce qu'il y a un vrai intérêt business, un vrai intérêt technologique derrière tout ça? Et puis dans cette première demi-heure, greenwashing chez les GAFAM. Voilà, il y a un écran zéro consommation chez Samsung, on verra si c'est vrai, si c'est vrai ou pas. Et puis les Apple Watch sont-elles neutres en carbone? En tout cas, l'Europe en doute un peu. Voilà, on va parler de tous ces sujets. Merci d'être avec nous tous les trois, merci de nous suivre sur BFM Business, réagissez évidemment sur le compte Twitter. Alors on va démarrer avec ces câbles. Alors évidemment, ça arrive dans un contexte politique, économique en France où, voilà, vous savez, Katos, on essaie de rattraper aussi tout ce qui est souverain. L'État essaie de remettre la main sur tout ce qui est souverain. Et puis là, l'État a décidé de nationaliser encore des activités stratégiques, alors liées en partie au renseignement militaire. En tout cas, c'est ce que nous dit Mathieu Pechperti. On l'écoute et on réagit juste après.
Difficile de n'y voir qu'une coïncidence. À deux jours des élections législatives, l'État nationalise des activités sensibles pour le renseignement militaire. Cette ancienne filiale d'Alcatel transporte sous les océans des câbles de l'armée. Les services secrets l'utilisent aussi pour capter des données et écouter les télécommunications. Les 1200 salariés voient régulièrement des fonctionnaires de l'armée, du ministère de l'Intérieur ou des Affaires étrangères visiter les sites de Calais et des Ulysses. Les noms de clients sont regardés de près, assure l'un d'entre eux. Alcatel Submarine Networks travaille aussi pour Facebook et Google, mais que pour des entreprises de pays alliés. La guerre en Ukraine a changé la donne et ces câbles sous-marins deviennent des cibles. Face à un tel risque, le gouvernement avait engagé des négociations avec Nokia depuis un an. Déjà en 2015, il avait échoué à adosser la société à des industriels proches de l'État comme Orange et Thales. Lorsqu'Alcatel s'était vendu à Nokia, le ministre de l'économie de l'époque, Emmanuel Macron, voulait déjà garder la main dessus.
Voilà, on va rappeler en quelques mots l'activité de cette, les activités de Alcatel Submarine Networks. Donc, ils ont des bateaux pour poser des câbles. Ils ont aussi tout ce qui est la connectique en fibre optique. Ils ont tout un tas de brevets pour que plusieurs transmissions puissent passer sur une seule fibre optique sous-marine. Ça appartenait à Alcatel. Et puis, je crois que c'est dans les années 2015. Nokia, Alcatel était un peu avait été un peu découpé. Et donc, Nokia avait racheté cette partie-là. Enfin, je crois que c'est 2019, Nokia avait essayé de revendre cette partie-là à Orange, BPI France, ça ne s'était pas fait. Bon, le Covid est arrivé par-dessus. Et puis là, ça y est, Nokia cède ASN à l'État français.
80%.
80%, oui. Alors, le chiffre d'affaires, c'est aux alentours de 1 milliard. Ça a été cédé pour 100 millions.
C'est valorisé 350 millions.
Voilà, et puis on le rappelle, Mathieu Pechperti le disait dans le reportage, sur ces fibres optiques, passe l'essentiel de nos communications internet, donc du Google, du Netflix aussi, il faut le dire de plus en plus le soir. Comment il faut voir ça, Claudia? Je démarre avec toi.
Ce que disait un petit peu Mathieu dans le reportage, c'est un mouvement assez stratégique de la part de l'État qui était, à mon sens, quand même essentiel, parce qu'en face de l'État français, il y avait des acteurs étrangers qui convoitaient aussi ces câbles. Finalement, c'est cher sans être cher, on va dire. L'État a d'ailleurs précisé que le montant, les 100 millions avaient été budgétés dans voilà, le précédent budget.
Parce qu'on sait que, rappelons qu'on est dans un contexte politique un peu particulier.
Dans deux semaines, peut-être tout va changer et voilà, ceux qu'on connaît ne seront plus au pouvoir. Donc c'est une très bonne nouvelle. Pour Nokia aussi, il faut dire que c'était peut-être le bon moment de céder ses activités. On sait, Nokia est un peu en difficulté sur son cœur de marché, parce que maintenant avec la 5G on va dire qui est bien installée, il y a moins besoin de la part des clients d'être équipé, donc c'est un peu plus compliqué pour Nokia. Il y a eu un grand plan social aussi qui a été annoncé avec je crois que c'est plus de 10 000 emplois supprimés. Donc moi je trouve que c'est une très bonne nouvelle.
Mais ça n'apparaissait plus dans les priorités stratégiques en tout cas pour Nokia.
Exactement, c'est une très bonne nouvelle et je pense que l'État aurait le mérite de faire la même chose sur d'autres dossiers. Et finalement, mieux vaut qu'on ait ça dans les mains des Français plutôt que dans les mains des Américains ou d'autres Européens.
Didier, pour une fois, la souveraineté bien choisie, là.
Voilà, donc là, on est clairement dans ce registre-là. Hein. On a parlé du cloud souverain, on a parlé de tout autre chose qui ne marche pas. Ouais. Là, ça marche. Hein. On a une solution pour gérer nos communications Internet. Ça, les câbles sous-marins, c'est quand même 99% du trafic. C'est donc énorme. C'est effectivement un enjeu stratégique, comme tu le disais.
Et puis nous, on est un nœud important à travers la Bretagne, à travers Marseille aussi, qui est un gros nœud d'arrivée de fibre optique.
Et il fallait effectivement réagir parce que la concurrence est rude. En ce moment, c'est surtout une concurrence japonaise, c'est NEC. Une concurrence américano-suisse avec... je sais plus comment elle s'appelle cette société, T-Subcom. Oui. Donc c'est bien, c'est un geste fort qui montre que l'État est sensible à ces questions-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'histoire de cette boîte qui effectivement a été rachetée à l'époque.
Ah, pour ceux qui adorent les télécoms, toute l'histoire est belle en plus.
Ça commence en 1850 dans ces eaux-là. Ouais. C'était à l'origine un opérateur de câbles de télégramme, télégraphe qui passait entre l'Angleterre et la France. C'était une boîte anglaise d'ailleurs. Mm-hmm. Et la société a été rachetée par la CGE. Ouais. Alors je ne sais plus si c'est dans les années 30 ou quelque chose comme ça. Et la CGE étant devenue après Alcatel, etc., elle a grandi avec. Donc maintenant, il y a des usines à la fois dans le Pas-de-Calais et aussi en.
Oui, il faut bien
Angleterre.
Dire que c'est pas. Alors, il y a des bateaux, il y a
six. Et ils ont une flotte de bateaux absolument.
Ils ont une flotte
incroyable.
De bateaux pour poser ces câbles. Mais comme tu l'as dit, il y a des usines parce que derrière, il y a la fabrication des câbles.
La conception même.
Et puis, il y a beaucoup de brevets. Il y a la technologie. Alors, pour ceux qui suivent la fibre optique, c'est la technologie WDM qui permet d'être encore plus puissant sur une même fibre. On va faire passer plusieurs technologies. La technologie d'ailleurs de ASN est plutôt bien reconnue, hein. elle est utilisée d'ailleurs. Là, le fait qu'ils puissent, parce que Nokia avait la sienne, ça aussi c'était, il y avait une petite compétition interne, et on peut imaginer que bien là ils vont un peu pousser cette technologie. Souveraineté, parce que on l'a vu notamment, Frédéric, avec le Covid, c'est quand même bien d'avoir ces infrastructures à soi, que si un jour les autres coupent, nous on aura quand même un peu ces liens.
Ah, difficile de nous voir autre chose qu'une dimension politique. L'État n'a pas a priori vocation à tirer des câbles sous-marins. Hein. C'est une activité, c'est un business, un très grand bon business.
France Télécom de la grande époque.
D'ailleurs, un excellent investissement de Bercy. Hein, vous l'avez dit, 100 millions d'euros d'investissement. Une entreprise qui fait 1 milliard de chiffre d'affaires, qui a doublé son activité depuis l'avant-Covid. Donc, c'est une entreprise qui se porte plutôt bien. La dimension politique, elle est flagrante. On est là à quelques jours d'une élection législative importante. Alors, tu parlais du Kaatos. Le Kaatos, c'est intéressant, mais c'est une entreprise qui est en pleine déroute. Mm-hmm. L'État, c'est vrai, a sécurisé, à hauteur, je crois, de 700 millions d'euros, toutes les activités cybersécurité, contre-militaire, supercalculateur,
gestion des centrales nucléaires.
Pour éviter qu'il y ait un prédateur extérieur qui vienne s'emparer de cette activité. Là, c'était pas le cas. C'était une entreprise qui se portait bien. Alors que Nokia voulait céder parce que Nokia a besoin de cash. Il vient de perdre un gros contrat, je crois que tu le disais, aux États-Unis sur les équipements télécom.
Contre Ericsson.
Mais malgré tout, normalement, dans une période peut-être plus apaisée sur le plan politique, on aurait pu penser que l'État mette en cheville Nokia pour qu'il le vende, peut-être, oui, pour qu'il l'adosse à un industriel français.
Est-ce que
la vocation de Bercy d'acheter ce genre d'entreprise, a priori non. Est-ce qu'il va le garder?
C'est l'Agence des participations de l'État. Hein, donc
c'est l'Agence des participations de l'État, oui, évidemment.
Qui est différent, c'est pas BPI France.
Et puis c'est une entreprise française, on dit Nokia, mais c'est, je crois que les trois quarts des salariés sont en France.
Oui.
Bon, voilà. Donc l'État rachète une entreprise française. C'est un très bon investissement, en tout cas, qui est une entreprise qui fonctionne, qui marche bien. C'est un des trois géants mondiaux du secteur. Maintenant, il y a la dimension politique. On s'affiche, on montre que l'État protège les Français, l'État protège la souveraineté dans le numérique. On l'avait vu dans l'alimentaire aussi il y a quelques années avec Carrefour. Il le montre aussi avec Atos sur des questions d'ordre stratégique. Donc voilà, c'est difficile de voir autre chose que ça.
Et ça a été reproché à l'État mouvement. D'ailleurs sur le dossier Atos de ne pas être intervenu plus tôt en fait.
Et moi pour le cloud, je trouvais qu'ils auraient peut-être dû être beaucoup plus interventionnistes sur la partie cloud en dehors de la partie.
Je suis complètement d'accord avec toi et je pense que c'est vraiment acceptable socialement en fait. L'État est déjà s'ingère déjà dans pas mal d'aspects économiques du quotidien des Français. Sur ces aspects qui sont en fait extrêmement compréhensibles, il y a aucun souci à aller là-dessus. Et tu le disais, là la solution peut-être de trouver un industriel français aurait pris plus de temps, peut-être le temps manqué.
Ils ont essayé avec Orange, avec Thales, ça s'est pas fait. Alors là, est-ce qu'ils vont continuer, est-ce qu'ils vont le conserver ou est-ce qu'ils vont
ça,
essayer
est-ce
de la
demain,
de
l'adosser ça peut être ça peut s'adosser à un industriel français. En tout cas, maintenant, c'est une option.
Non, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, c'est pas une opération, un gouffre financier qui va nous faire perdre de l'argent. Au contraire, c'est une entreprise qui va bien, qui est rentable et qui effectivement peut se revendre à un prix absolument incroyable.
Et puis, je reviens avec ma technologie WDM, mais qui ont des brevets.
Absolument.
Ils ont un beau capital de techno, innovation, R&D, des usines. Enfin voilà, on est vraiment dans un bel exemple de l'État qui s'y met, qui prend les risques. Et puis on verra pour la suite, est-ce que c'est l'État qui va continuer à gérer, est-ce qu'ils vont réussir à trouver un autre industriel, parce que les Thalès et Orange n'étaient pas intéressés à l'époque. Après voilà, et puis c'est vrai que le contexte politique fait que on est sûr de rien dans les semaines et les mois à venir. Autre sujet, justement des Google traductions, il y en a beaucoup qui ont dû passer sous l'Atlantique là quand on a fait, parce qu'évidemment Google, les GAFA utilisent beaucoup ces fibres optiques, mais là on parle de ce sujet, c'est Google traduction qui va parler. Alors on le disait un peu sur le ton de l'humour, mais enfin, c'est pas totalement anecdotique, hein. Breton, occitan, centre-tout le créole, il y a des langues africaines, il y a le cantonais aussi, enfin voilà, ça regroupe plusieurs langues. Et ma question était de savoir qu'est-ce qu'il fallait penser de tout ça. Alors, est-ce que c'est une. Alors, il y a évidemment un côté innovation, technologie, Google met en avant sa technologie Palm, qui est un peu le IA Gemini pour la traduction. Après, est-ce que c'est quelque chose aussi pour résister? Parce que quand on regarde ce que fait ChatGPT, aujourd'hui, DeepL,
je pense que Google a pris du retard là-dessus. Ils étaient bien partis. Google Trad, c'est un truc qui a marché plutôt pas mal. Oui. Et puis, ils ont vu les progrès d'autres acteurs. Je pense notamment à DeepL qui a fait vraiment des...
On n'avait plus le défaut des Google Traductions qui, parfois, la traduction n'était pas tout à fait...
Oui, c'est vrai. Voilà. Oui. DeepL fonctionne à partir d'un moteur d'intelligence artificielle qui fonctionne bien. Ils analysent des milliers de textes. Ils arrivent et donc, je pense que Google a vu que ça se passait par là. Oui. Et dès qu'ils ont mis au point leur Gemini, la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont essayé de l'adapter à leur système de traduction. Alors, c'est bien. Ça va leur permettre de reprendre l'initiative dans ce domaine-là. Et puis, effectivement, maintenant, les gens qui ont des traductions à faire, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent par ChatGPT. Hein. Oui. Donc, il va falloir forcément entraîner ce Google Trad à avoir de plus en plus d'espace, de plus en plus de clients. Et les clients, ils se recrutent où? Dans les endroits où on parle des langues. Je sais que un quart, je crois, de ces nouvelles langues là qu'ils ont mis sur Google Trad sont des langues africaines.
Oui.
Parce qu'effectivement, là-bas, le nombre de par pays, le nombre de langues.
Elle est parlée par 100 millions de personnes.
Mais
imagine le Nigeria.
C'est comme le foot maintenant, un des enjeux de diffusion des Coupes du Monde, etc. C'est la traduction. Exactement. Aussi, les commentateurs en toutes les langues. Pour poursuivre ce que disait Didier, je pense que Google Traduction fait aussi le pari de la quantité face à des nouveaux acteurs comme DeepL qui sont, on le disait, peut-être un peu plus qualitatifs sur certains aspects. Là, Google Traduction, ce sera plus de 130, je crois, langues, donc qui donnent la possibilité de traduire. Et DeepL, on est sur une petite trentaine de langues pour l'instant qu'on peut traduire. Et c'est un service aussi dont une grosse partie est payant. Je crois que vous avez un nombre de textes, de signes, pardon, oui, que vous pouvez traduire gratuitement. Et ensuite, c'est le pari du payant. Donc, je pense que c'est des modèles différents et Google va chercher des parts de marché sur peut-être des zones qui de toute façon ne paieraient peut-être pas pour ce type de service et qui ne trouvent que ces langues-là sur Google Traduction, et je trouve que c'est assez judicieux. Et puis par ailleurs, je trouve ça quand même bien qu'on mette en avant aussi les différents dialectes, langages, oui, spécificités.
Oui, un côté de préservation culturelle.
Exactement, qui est important et qui a peut-être tendance parfois à disparaître cette préservation culturelle avec la technologie, donc c'est plutôt bien.
Oui, d'autant plus que sur la note de blog, c'est assez intéressant, ils expliquent Google qu'ils ne font pas appel qu'à l'intelligence artificielle.
Oui, il y a des linguistes.
Ils ont bossé avec des linguistes, avec des locuteurs de ces langues rares, etc. Donc, il y a une démarche un peu humaniste, on va dire.
Et avec un peu universitaire. Et puis, je pense que ça permet aussi, parce qu'ils disent il y a des langues qui ont publié beaucoup de contenu, mais qui n'ont jamais été traduits. Et ça peut aussi ramener du contenu davantage pour entraîner encore les IA à d'autres sujets.
On va y arriver.
Fred, bien qu'il...
Oui, non, mais Google, moi je pense que Google est, comme tous les GAFAM, une vocation universelle. Ils veulent s'adresser au monde entier. Il n'y a pas un être humain qui ne doit pas utiliser leur service. Et là, c'est vrai qu'ils en manquaient beaucoup quand même. Parce que mine de rien, la somme de ces petites ou pas si petites que ça d'ailleurs.
110 nouvelles langues.
Hein. Enfin, le cantonais, c'est pas si petit. Ouais.
Non, voilà, le cantonais, le Punjabi, qui est une langue très parlée en au Pakistan, au total, ils estimaient que c'était 660 millions de locuteurs. C'est pas rien quand même. Hein. On parle de 8 à 10% de la population mondiale.
Qui vont pouvoir faire des recherches, entraîner les IA sur leur langue.
Est-ce que ce sont 660 millions de locuteurs en langue maternelle, ou est-ce qu'il y a beaucoup aussi, comme le breton, de langues un peu plus localisées? Mais malgré tout, ça fait quand même beaucoup de monde. Et c'est vrai qu'aller chercher ce public-là, ben pour Google, qui a cette vocation universelle de s'adresser à la planète entière, ben il faut aller chercher ce qu'on appelle en marketing la long trend, c'est-à-dire même si c'est des plus petits publics, la somme de ces plus petits publics, ça fait quand même beaucoup de monde. Et pour Google, il fallait que ces outils puissent parler cette langue-là. Juste pour répondre à Didier, moi je trouve quand même que Google Trad a fait des progrès en termes de qualité. Par rapport à il y a 5-6 ans, quand on se tapait des documents, quand on les mettait dans Google Trad, c'était cataclysmique. Je me rappelle le texte d'article de la presse japonaise que j'essayais de lire dans Google Trad, c'était illisible. Aujourd'hui, il y a quand même, alors c'est vrai que sans trop faire de bruit, ils ont quand même amélioré leur algorithme, leur IA a fait des progrès, et donc là, oui, ils vont chercher, évidemment, ils sont archi-leaders, à ma connaissance, sur le nombre de langues qu'ils vont proposer, parce qu'ils en avaient une 130 plus 110, ça fait 200.
Est-ce que ça veut dire qu'il y a aussi des entreprises qui peuvent mettre en place des services aussi à travers ce Google Trad, d'accompagnement, de papiers juridiques, je sais pas, est-ce que ça pourrait être...
Ouais, peut-être papier juridique, ce serait, je pense, peut-être l'étape d'après, quand ce sera plus perfectionné, parce que c'est difficile aussi même d'interpréter, entre guillemets, les différents droits aussi. Après, oui, ça laisse énormément de possibilités de services pour les entreprises, et puis ça ouvre encore plus la découverte du Monde, d'autres journaux.
Ça va ouvrir aussi les perspectives des spammers.
Oui. Après, on rappelle, c'est quand même un service gratuit proposé par Google. Le nerf de la guerre, c'est la publicité. Et le but, c'est d'attirer le plus grand monde possible sur ces services.
Attendez qu'il y ait la voix par-dessus qui viendra s'ajouter. Et puis
c'est ça qu'on attend aussi maintenant, savoir si c'est l'IA générative pourra parler breton, occitan, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Punjabi. Ouais.
Voilà. Alors,
en tout cas, West France a testé le service en breton. Et ça semble assez de bonne qualité.
200 000 personnes intéressées par le breton, donc je confirme. Alors, autre sujet. Greenwashing chez les GAFAM. C'est vrai que là, coup sur coup, on a deux annonces. On a l'écran zéro consommation. Je crois que c'est toi, Didier, qui l'avais repéré de Samsung. Est-ce que c'est une vraie innovation, une petite arnaque? Et puis, il y a l'UE qui reprend un peu le côté les Apple Watch, notre en carbone. Il monte un gros point d'interrogation en disant, mais qu'est-ce que vous nous racontez là, Didier, sur le...
Oui. C'est tout le monde connaît cette histoire où vous achetez un dentifrice à la menthe bio et vous êtes tout content parce que vous pensez que votre dentifrice c'est bio et en fait c'est la menthe qui est bio. Oui. Et la menthe elle est 0,01% du composant total du dentifrice. Mais on a un peu le même phénomène dans la tech, c'est-à-dire que il y a des grosses étiquettes qui disent 100% recyclé, machin, truc muche. Et en fait 100% recyclé c'est le boîtier autour. Mais tout ce qui est à l'intérieur c'est des terres rares, c'est des trucs, etc. Donc l'Union européenne a vu ça et s'est dit maintenant ça commence à bien faire. Il y a des allégations écologique, de respect de l'environnement qui ne sont absolument pas légitimes. D'autant plus que souvent le phénomène qui arrive, c'est qu'on se base uniquement sur des prétentions marketing qui ne sont absolument pas prouvées. Alors, On a des grosses étiquettes, des gros logos,
etc. Et d'autant plus que les acheteurs, ils font de plus en plus attention. Oui. Donc parfois, s'ils sont bernés, voilà, ils sont embarqués
puis,
dans un produit qui ne
correspond pas. Il y a une confusion. On parle souvent c'est pas le bilan carbone. Je cherche le nom. C'est l'équivalent carbone. Les industriels expliquent qu'ils peuvent vendre des produits hyper polluants, mais ils ont planté 10 arbres à côté. Oui. Donc voilà, ça, c'est la compensation.
La compensation.
Donc l'Union européenne a dit maintenant, ça commence à bien faire. Vous n'avez plus le droit de dire que votre produit est écolo si c'est juste de la compensation carbone parce que vous avez planté 10 arbres. Et deux, vous devez respecter les normes écologiques certifiées. Vous ne mettez pas n'importe quel logo de n'importe quelle entreprise qu'on ne connaît pas. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, maintenant, tout le monde se vante d'avoir une bonne empreinte carbone, un bilan carbone exceptionnel, etc. L'écran Samsung, c'est un bon exemple.
Oui.
Il est présenté comme un écran zéro consommation. Pourquoi ? Parce qu'il utilise la technologie e-ink, cette technologie que tout le monde connaît, hein, qu'on utilise sur les liseuses.
Oui.
Là, ils ont trouvé une technologie qui leur permet de faire un affichage en couleur. Donc, ce sont des grands écrans qui servent en fait de panneaux d'affichage pour des publicités ou de l'information en magasin. Donc, l'image est statique, c'est pas un écran de télé ni un moniteur informatique. Donc, ça consomme effectivement 0,0%, mais là encore, le bilan carbone, il s'arrête pas à la consommation du produit.
Cycle de vie.
Voilà, on est allé chercher des terres, des minerais, on est allé fabriquer des matériaux, il y a eu de l'importation par des cargos, des machins, des trucs, enfin là-bas. Donc,
pour ces produits, un chiffre de l'ADEME, les trois quarts en fait de l'empreinte carbone de ces gadgets sont dans la phase des fabrications.
Exactement.
Donc tout le reste, même si on vous dit, et puis en plus, je pense que l'autre réflexion pour compléter ce que tu disais à se faire, c'est qu'est-ce que ça vient remplacer ? Parce que là, l'écran Samsung, ils le vendent comme on le remplace un petit affichage publicitaire dans un magasin. Mais quelle est vraiment l'utilité à aller ajouter du numérique ?
Oui.
Certes, qui disent qu'ils consomment peu, mais
ça permet de changer l'affichage des prix, les soldes, des trucs comme ça, par exemple.
Ouais, mais bon, je trouve qu'il y a vraiment cette question de l'utilité à se poser par rapport à des affichettes qui, de fait, consomment moins. Enfin, je trouve qu'on tend assez facilement à choisir la solution du numérique parce que c'est un peu plus simple, parce que ce sera peut-être plus rapide, mais il y a beaucoup ça, je pense, à se poser. Il y a le réflexe aussi consommateur, le réflexe entreprise sur des gadgets, parce que là, on parle quand même de gadgets, on ne parle pas d'outils essentiels pour le travail. Mais ce que tu disais aussi par rapport à la réglementation européenne, ce qu'il faut préciser, c'est qu'en France, ça existe déjà. On a été assez avant-gardiste, la France, autour de la transparence publicitaire. Et ça fait, je crois, je ne veux pas me tromper, mais je crois que ça fait depuis 2022 que ces règles européennes existent en France et qu'on voit de moins en moins, du coup, de messages publicitaires trompeurs. Parce que maintenant, l'entreprise est obligée de faire un audit et de prouver vraiment de façon très très factuelle que ce qu'elle raconte est vrai, et tant mieux.
Oui, enfin, cela étant, les publicités Twitter, Facebook, etc., les publicités en ligne, elles ne respectent pas toujours les normes françaises.
C'est vrai, oui.
Après, Fred Bianchi.
Non, sur l'écran de Samsung, oui, effectivement. Alors, si c'était pour remplacer les immenses écrans qu'on voit dans le métro, dans les magasins, très bien. Parce que là, ils sont archi-consommateurs. Hein. J'ai vu qu'ils consommaient 20 000 kWh pour 10 ans, c'est-à-dire l'équivalent. Et puis, c'est à peu près
leur durée. On les éteint jamais,
ils tournent 18 heures par jour. 20 000 kWh sur 10 ans, c'est la consommation d'une famille de 4 personnes dans 120 mètres carrés pendant un an. Voilà, c'est quand même, sauf qu'ils remplaceront jamais ces écrans-là. Ils vont remplacer des posters parce que on peut pas afficher de vidéo. Or, sur ces écrans-là, il y a que des vidéos. Donc, effectivement, c'est voilà, c'est pour enlever des posters et mettre ces écrans-là avec tout le process de fabrication qui, lui, est fortement émetteur de gaz à effet de serre. Ça sert à rien. En revanche, sur la question de la réglementation. Moi, je suis un petit peu sceptique. Alors oui, effectivement, il faut lutter contre les abus de greenwashing de compensation. Mais est-ce que ça peut pas un peu orienter aussi les consommateurs ? Parce que si tous les produits d'un rayon sont mis sur le même point pied d'égalité. Moi, je préfère quand même, malgré tout, acheter un téléphone où l'entreprise va planter 10 arbres derrière, plutôt qu'acheter un téléphone où l'entreprise ne plantera même pas ces 10 arbres. Donc, il y a peut-être d'autres moyens de communiquer.
Ça ne t'empêchera pas d'acheter celui de l'entreprise avec les 10 arbres, simplement.
Oui, mais il faut le savoir.
Il y aura le logo. Le logo ne sera pas le logo 100% écolo, bilan carbone, etc. Ça sera j'ai planté 10 arbres.
Oui.
Donc, oui, non, mais bien sûr. Il faut informer le consommateur.
C'est la dimension neutre en carbone qui est sans doute fallacieuse, parce qu'effectivement, on ne sait pas si les 10 arbres, quand est-ce qu'ils seront plantés, est-ce qu'ils ils aspireront autant de CO2 que les marques le disent. En tout cas, il faut quand même que les marques qui font un peu mieux, le consommateur puisse être informé, parce que c'est la seule information qu'on a. Les consommateurs, ils ne vont pas aller sur Internet pour savoir qu'il y a Apple émet de CO2. Il faut en magasin qu'il ait un minimum d'informations, la plus honnête possible, mais il faut qu'il ait un minimum d'informations. Si une marque fait un peu mieux que les autres.
Dans l'univers entreprise, il y a tout ce qui est la norme CSRD là, qui va arriver. Il faut justifier qu'on respecte les enjeux environnementaux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les entreprises, c'est un critère d'achat. Et ils sont même poussés par leurs utilisateurs pour dire nous, on veut des choses un peu plus, entre guillemets, green. Alors après, il y a aussi.
Les normes dont parlait Didier, est-ce que le consommateur les connaît toutes? Est-ce qu'il sait de quoi il les retourne? C'est vrai qu'un terme simple comme neutre en carbone, même s'il est faux, bon, il indique. Alors, il faudra peut-être trouver des moyens d'indiquer que moi, entreprise, je fais un peu d'effort, je plante 10 arbres, alors que l'entreprise Z qui est à côté de moi,
elle n'aura pas son logo, elle n'aura aucun logo.
Elle n'aura aucun logo.
Allez, eh bien, nous, ce ne sont pas des arbres qu'on va planter, c'est le journal de l'éco là, qu'on va planter là devant nous, avec pas mal d'infos aussi. On va vous se retrouver juste après. On a encore une bonne demi-heure de débrief, et puis ensuite, on se retrouvera pour la dernière demi-heure où on parlera des écrans. Des téléphones à écran pliable chez Motorola et puis d'un avion électrique. Donc vous voyez, on est toujours de ce côté enjeux environnementaux. Allez, tout de suite, le journal de l'éco.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Voilà, on est reparti pour une demi-heure de débrief avec nos experts, Frédéric Bianchi, journaliste à BFM Business, Claudia Cohen, journaliste au Figaro, et Didier Sens, journaliste tech. On a parlé, si vous avez raté le début, des câbles sous-marins. On est revenu sur Google qui avait lancé 100 nouvelles langues de la traduction. Et puis, ce côté greenwashing un peu des big tech en ce moment, est-ce qu'il faut être un peu plus sévère avec eux? Et puis là, on va parler d'Amazon. Mais avant de vous passer la parole, mes chers débriefeurs, la parole est à Étienne Braque. Bonsoir Étienne.
Bonsoir Frédéric.
Alors Étienne, Amazon vient d'entrer dans ce club très fermé des capitalisations. Alors non pas à plus de 3000 milliards, parce que là il est encore plus fermé, ils sont que 2 ou 3 à y être inscrits, mais dans celui des capitalisations de plus de 2000 milliards.
Et la course à l'intelligence artificielle qui continue de faire bondir Wall Street avec en effet désormais Amazon qui rejoint le club très fermé des 2000 milliards. Là vous avez les 5 valeurs qui sont au-dessus des 2000 milliards, dont 3 qui sont au-delà des 3000 milliards. Leur particularité, c'est qu'ils sont présents dans l'intelligence artificielle, Microsoft avec Azure, Apple, on l'a vu ces derniers jours, a connu un record historique grâce notamment aux annonces et l'arrivée de ChatGPT dans ses iPhones, Nvidia bien sûr, qui a connu le parcours le plus spectaculaire à Wall Street, quand Alphabet, la maison mère de Google, également avance ses pions dans l'intelligence artificielle. Alors c'est vrai qu'Amazon, on en parle beaucoup par rapport à leur place de marché, mais moins par rapport aux activités cloud, Amazon Web Services, qui est eh bien, un petit peu la vache à lait du groupe, dans le sens où c'est une marge opérationnelle de plus de 36% au premier trimestre pour cette activité cloud contre 24% l'année dernière. Une dynamique qui devrait se poursuivre selon le consensus. L'IA a besoin de beaucoup de stockage. Ça tombe bien. Amazon sait le faire puisque c'est tout simplement le leader mondial dans les activités de cloud avec une part de marché de plus de 30% devant Microsoft qui certes avance ses pions avec Azure, mais vous avez quand même un écart important entre ces deux acteurs. Et puis ensuite, en troisième position, loin derrière, vous avez Google qui a un petit peu plus de 11% de part de marché au quatrième trimestre, en tout cas les derniers chiffres recensés. Et puis cerise sur le gâteau, l'activité e-commerce qui a été pendant des années en perte, et au premier trimestre elle a gagné de l'argent, et ça devrait se poursuivre grâce notamment à des gros gains de productivité, des économies. Donc tout ça devrait permettre également au groupe de continuer d'avancer dans son activité de e-commerce, d'autant plus que les informations de The Information affirment que Amazon devrait lancer dans les prochains mois un site un peu plus low cost afin de concurrencer Alibaba et puis surtout Temu.
Merci Étienne Braque pour ces précisions. Donc autour d'Amazon, alors évidemment Amazon, on est dans l'immense, à la fois la plateforme de e-commerce et puis notamment cette immense partie AWS, Amazon Web Services, qui concerne le cloud. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir là de ces 2000 milliards? Je démarre avec toi Claudia.
Que Jeff Bezos est un très bon vendeur aussi. Là il était à Washington, il a fait une petite tournée à Washington pour essayer de convaincre à la fois fois les services publics, aussi quelques organisations non gouvernementales, de se mettre à l'IA générative. Il essaye évidemment face à Google, face à Microsoft.
Ils investissent dans Anthropic beaucoup.
De se positionner sur ces marchés. Et après aussi, un mot peut-être qui n'a pas été dit, plus globalement, Amazon sur la stratégie publicitaire, ce qui marche du feu de Dieu en ce moment, c'est ce qu'on va appeler le retail média, c'est les investissements sur les espaces e-commerce en gros. Et en fait, Amazon est absolument leader là-dessus, après Walmart. Et de plus en plus, les investissements, dont certains qui étaient sur les réseaux, se déplacent vers ce type de publicité. Amazon capte énormément d'argent là-dessus. Avant, on se rappelle, il y a à peine 5 ans, les revenus publicitaires d'Amazon, c'était dans les lignes autres. C'est-à-dire qu'on ne les comptait même pas. Ouais. Maintenant, ça existe, c'est présent et ça ne fait que grimper.
Les bénéfices venaient d'ailleurs beaucoup de la division AWS. C'était ça qui entraînait...
Donc là, sur différents corps de leur business, ils sont extrêmement bien positionnés. Et aussi, je pense que le rôle quand même du fondateur reste très important aussi.
Oui, même s'il a passé la main à Andy Jassy depuis quelques années. Mais il est toujours quand même bien présent. Fabien, qui suit Amazon depuis...
J'ai connu Amazon avant lui. Amazon, il y a encore un an ou deux, on se disait où est-ce qu'ils en sont finalement dans tout ça. Il y avait OpenAI qui arrivait, eux, ils avaient un peu de retard, le e-commerce n'était pas florissant, ils avaient supprimé un certain nombre de postes parce qu'ils avaient eu des difficultés dans l'après-Covid. Puis là, on s'aperçoit que finalement, depuis un an, Andy Jassy...
Je t'interromps, AWS, grosse compétition quand même. Il y a Azure et Microsoft.
Il y a encore deux ans, je crois qu'Azure était même passé sur certains trimestres devant AWS. Donc Microsoft avait dépassé Amazon sur le cloud, alors qu'Amazon était leader avant. Mais finalement, on s'aperçoit que petit à petit, les briques posées par Andy Jassy commencent un peu à faire un peu système. On parlait de l'IA, mais Amazon a investi quand même 4 milliards d'euros dans une des startups les plus prometteuses du secteur, Anthropic. Ils développent leur propre langage, leur propre outil d'IA générative qui s'appelle Q en interne. Il y a la publicité dont parlait Claudia, je crois que sur Amazon Prime Video. Alors ça nous embête de voir ces pubs, ça me hérisse, mais en attendant ça fonctionne semble-t-il assez bien, parce que je crois qu'il y a des projections de banques assez sérieuses qui disent que Amazon devrait générer 5 milliards de dollars de revenus avec ses pubs, juste ses rôles au début de la vidéo. Amazon Web Services, donc en croissance de 17% au-delà des prévisions du marché. Le cloud, qui est quand même un peu à la manière d'NVIDIA, une des briques fondamentales de l'IA générative.
Ils ont leurs composants aussi, ils sont comme les autres.
Ils ont aussi leurs composants. Ils commencent à gagner de l'argent dans le e-commerce après en avoir perdu pendant quasiment 30 ans. Donc tout ça fait que qu'Amazon finalement atteigne 2000 milliards de capitalisation boursière. J'ai même envie de vous dire que c'est pas assez. Je pense qu'il pourrait être encore plus. Alors ils ont progressé quand même de 50% en un an, mais je pense que le rallye n'est pas terminé pour Amazon, parce qu'ils sont pas finalement plus mal placés qu'Apple. Alors peut-être un peu moins bien que Microsoft, encore que ça se discute, dans les révolutions tech qui arrivent et qui vont transformer le marché des 10 prochaines années.
Les révolutions tech, alors si vous nous regardez en télévision, vous voyez ces impressionnants entrepôts, parce qu'évidemment c'est les plateformes d'e-commerce, mais ça dit derrière quoi? C'est de la logistique, et puis derrière toute l'innovation qu'on met dedans, notamment de la robotique. François Sorel et Léa Benaim étaient allés il y a quelques mois chez Amazon aux États-Unis pour voir la mise en place de tous ces robots, c'est assez impressionnant.
C'est impressionnant.
Didier?
Alors moi je n'ai pas grand-chose à dire de plus. Simplement, enfin, on attendait Amazon dans ce club parce que les autres y sont.
On était un peu surpris de. Moi, quand j'ai vu la première, je me suis dit, ah bon, mais ils ne seront pas. Ah oui,
c'est voilà, vrai,
ils sont
absolument. On est plus surpris d'apprendre qu'ils y sont que. Voilà. Mais comme on discutait avec Claudia tout à l'heure, c'était l'histoire de. En fait, c'est intéressant parce que Meta a disparu de ce groupe.
Oui.
Et Nvidia y est arrivé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute la donne a changé avec cette histoire d'intelligence artificielle. Et si Amazon fait d'aussi bons résultats, c'est en grande partie à cause de ça. Même si ces services AWS, tous ces services cloud, ont connu un boost avec l'histoire du streaming, avec Netflix et compagnie. Enfin, il fallait quand même avoir des gros serveurs pour stocker tout ça. On peut dire que là, Jeff Bezos peut remercier les besoins phénoménaux en serveurs de l'intelligence artificielle.
C'est intéressant ce que dit Didier par rapport à Meta. Notamment.
C'est toujours intéressant ce que
Meta, toujours intéressant, mais alors là, encore plus que d'habitude. Non, Meta, combien ils ont dépensé dans le métaverse, dans la réalité virtuelle, depuis 2 ans? ils auraient mis un dixième. Alors, c'est évidemment un dollar dans le métavers, c'est pas équivalent d'un dollar. Voilà, ils avaient peut-être pas les compétences en interne, ils avaient peut-être pas les expertises, mais ils auraient racheté des startups, ils auraient investi dans des Anthropic ou dans des boîtes comme ça plutôt que de dépenser. Je crois que c'était 10 milliards par trimestre à un moment où ils dépensaient dans leur métavers, ouais, dans leurs casques qui se sont jamais vraiment vendus. Enfin, c'est ça reste des produits de niche, tout ça. Moi, je pense que là, Mark Zuckerberg a raté le coche et a démontré qu'il était peut-être pas aussi un aussi brillant, ouais, patron que ceux de Microsoft et d'Amazon.
Je n'enterrerai pas si vite. Il ne faut pas oublier non plus ce que jugent en général quand même les investisseurs, c'est les résultats aussi quand même à très court terme. Et tu le disais, il y a eu des dépenses stratosphériques de Meta qui a toujours dit qu'ils espéraient voir des résultats à ces dépenses dans X années, sauf qu'en bourse, ben, on n'a pas le temps. Donc on voit Meta qui ne produit pas immédiatement des résultats alors que ses concurrents, c'est le cas. Mm-hmm. Mais moi, je pense qu'on n'est pas à l'abri de voir dans 2, dans 3, voire dans 4 ans des choses absolument extraordinaires se développer chez Meta, et pour le coup des choses sur lesquelles ils ont investi, on se moquait d'eux à l'époque, et sur lesquelles le reste n'a pas investi, puisque ça ne les empêche pas non plus à Meta d'être quand même présent aussi sur l'aspect IA.
Ils sont toujours là, quoi. C'est
ils
vrai,
sont
à un
là,
moment,
oui.
Ils ont raté le virage du mobile, ah ben non, finalement ils sont repartis, ouais. Alors le Metaverse, bon, il a su rebondir, et puis le Metaverse n'est pas fini, donc on verra un peu cette compétition avec Meta.
Ils ont eu moins de nez. On rappelle, ouais, qu'AWS, c'est vrai que ça peut surprendre. Pourquoi Amazon, qui vend des livres, des robots ménagers, pourquoi ils sont leaders du cloud? C'est vrai que ça peut être surprenant. Et parce que, alors, c'est un coup de chance, en fait, de Jeff Bezos. Hein. À l'origine, ils avaient investi dans des serveurs, justement, pour faire tourner leur site e-commerce. Et ils sont aperçus l'été que les gens achetaient moins de produits par rapport à Noël ou par rapport à des saisons plus florissantes. Et Jeff Bezos s'est dit, ces serveurs, qu'est-ce qu'on en fait? On va les louer à des entreprises pour qu'ils puissent stocker leur donner là-dessus, et c'est comme ça qu'est né AWS sur, oui, un peu de hasard.
Pour la petite histoire, j'avais interviewé le patron de l'innovation qui était venu présenter ça à Jeff Bezos en disant on devrait louer nos serveurs. Jeff Bezos commençait à les louer.
Pourquoi faire?
Puis voilà, il avait expliqué tout ça. Mais en plus, là où ils sont, où ils ont eu en plus cette intelligence, et on va parler d'OVH Cloud dans un instant, qui essaie de monter aussi, c'est qu'ils sont pas restés juste sur la partie infrastructure. Ils sont montés dans les couches et pour proposer tout un tas de services. Alors, au niveau des développeurs, au niveau des entreprises, ils proposent, quand vous discutez avec des DSI, qui vous parle de tous les services qui sont en place pour, on peut tout faire, quoi. Et puis on déclenche ça, hop, alors il faut quand même c'est payer, on paye, une fois que c'est payé, on enclenche comme sur notre smartphone, on met le petit truc sur vert et tout, on a accès à tout un tas de services. Quand on n'a plus besoin, on désenclenche, et là c'est vrai qu'ils sont assez puissants. Un mot, je voulais rester sur Amazon, qui s'attaque à Temu et à Shein, là, ces plateformes chinoises, et qui veut aussi se lancer dans le low cost, c'est ça? Alors qui
oui, ils veulent lancer une vitrine cheap, on va dire, sur leur site, avec des produits qui seraient tous dans la déco, dans la mode, des trucs pour la maison, qui seraient tous à moins de 20$ sur des prix très très bas. Et en fait, ce qu'ils proposent pour attirer les fabricants chinois qui produisent ces produits, c'est en fait qu'ils puissent les livrer directement eux. C'est-à-dire que que ces produits n'aient pas à passer par les entrepôts d'Amazon. Et donc, en vous faites une vente directe, ce qui fait gagner du temps. Ils promettent 9 jours, grand maximum de délai. Et ensuite, Amazon aussi, pour garantir des prix extrêmement bas, réduit drastiquement sa commission. Je crois qu'il passerait de 17%
à 5%. Mais du coup, ils s'en fichent de toute la polémique là, qu'on a autour de ces sites.
C'est ça que j'allais dire. Il y a quand même vraiment un enjeu de réputation. Moi, j'ai beaucoup écrit sur Temu, sur Shein, etc. Et c'est vrai que même si Amazon à la base avait quand même aussi un business model, oui, qui était très critiqué, parce qu'on parle
combien d'entre nous on s'est tous fait avoir, hein, acheter des produits sur Amazon c'était moins cher, le jour où ils arrivent, ah oui tiens,
ouais. Ils sont pas géniaux, le coût pour l'environnement est quand même énorme. À la base, c'est le business model d'Amazon qui était critiquable écologiquement parlant, mais quand vous voyez des acteurs comme Temu et Shein arriver, à mon sens Amazon retrouvait certaines lettres de noblesse, parce que la compétition est devenue pire en fait. Et là, d'aller s'insérer dans ce truc, parce qu'il faut dire déjà, au-delà d'être critiquable, il y a aussi des gouvernements, notamment le gouvernement français qui se révolte par rapport à ces types de business model. Il y a eu un vote en France pour une taxe sur ces sites en fait, qui vendent des produits d'extrêmement mauvaise qualité et à très bas coût. Je pense qu'il y aura peut-être ce même type de réflexion dans d'autres pays que la France. Donc c'est un pari, je ne sais pas si c'est un pari risqué, parce que je ne pense pas que ça coûte extrêmement cher pour Amazon. Et en fait, si, moi, si j'étais eux, niveau business, je me dis pourquoi pas, essayer.
En plus des produits, en plus l'équation, l'équation carbone, avec des produits achetés peu chers, très peu portés finalement, parce qu'une fois qu'on les lave trois fois, ça, et qui se retrouvent dans les déchets, et là, on repart enfin, dans une autre chaîne déchets textiles.
Fred. Non, non, mais moi, je ne sais pas si Amazon fait ça pour vraiment générer un nouveau business ou si c'est aussi pour faire un clin d'œil à la Chine, parce qu'Amazon veut s'implanter en Chine. Ils investissent en Chine aussi. Amazon, c'est pas grand-chose en Chine. Hein. Amazon, aujourd'hui, c'est,
Alibaba,
est présent dans très peu de pays, finalement. Hein. C'est principalement des pays occidentaux. Alibaba, donc, il va vraiment s'imposer.
Le deuxième, c'est
s'imposer en Chine.
Deux grands. Il y a Alibaba et son.
Alibaba.
C'était. Ça vient de revenir.
Ça m'échappe.
Soufflez-le nous.
Et après, la question morale autour de la question environnementale. Moi, je veux bien, mais Temu, Shein, et ça cartonne. Alors, je veux bien qu'il y ait des articles dans la presse qui critiquent leur modèle de développement, leur impact environnemental, mais attendant, les gens achètent.
Oui, mais ça commence comme ça, et derrière, il y a le réveil politique, et derrière la régulation, et derrière l'interdiction.
Peut-être, mais Amazon a eu une très mauvaise presse en France, et continue certainement d'en avoir pendant des années. Ça leur a pas empêché de se développer. Alors oui, il y a le cas Wish, hein, par exemple, qui a dû... Voilà. Mais Shein, Temu, moi, tous les jours, j'entends dire des horreurs sur ces trucs-là, et certainement à juste titre. Attendant, les gens achètent beaucoup. Et Amazon, l'idée, c'est de disrupter, je crois, un petit peu, parce que le problème de ces sites-là, il faut le dire, c'est que les temps de livraison sont très longs.
C'est 11 jours minimum, c'est ça, non?
Ouais. Alors, Amazon veut accélérer, en passant par sa chaîne logistique, ils veulent accélérer le processus. Alors, est-ce qu'ils vont vraiment mettre le paquet là-dessus? Parce que les marges doivent être très faibles sur ces produits-là, quand même, à moins de...
Changeons un peu de sujet, parce que j'aimerais bien qu'on termine par les chercheurs japonais qui ont greffé une peau organique, là, sur un visage de robot. On va y venir dans un instant. Et rien que les images, comme le disait l'un de mes prédécesseurs ici même, si vous êtes bon appétit, si vous êtes à table, qu'on verrait cette vidéo. Juste un mot sur les bons résultats de OVH Cloud. Je sais pas, Didier.
Claudia.
Sur OVH Cloud.
Oui. Parce que plutôt des bons 10% de croissance sur le trimestre, des revenus en hausse, hausse du revenu par client, une croissance aux États-Unis qui s'établit, qui est plutôt bonne. Alors, on n'est pas
sur les hyperscalers, mais justement, ça fait la différence. On n'est pas sur des hyperscalers, on est sur des propositions de prix qui sont plus accessibles. C'est ce qui markete aussi au OVH Cloud. Et il faut aussi rappeler, ce qui markete, c'est le côté, on parlait de souveraineté tout à l'heure, là, on peut en parler aussi. De côté, on propose des services aux entreprises et on est capable de garantir que il y aura une sécurité des données et que dans aucun cas il y aura comment on appelle ça l'extraterritorialité des données, des questions quand même qui peuvent inquiéter quelques entreprises. Et il faut saluer quand même le travail d'OVH Cloud qui petit à petit, voilà, l'année dernière il y a eu, je crois que c'était l'année dernière où il y a eu des pertes, là il remonte la pente. Il y a quand même un énorme marché, on disait tout à l'heure, avec l'IA, sur lequel on aura besoin de plusieurs acteurs. Il y aura pas que les gros qui pourront prendre des parts de marché. Donc voilà.
Avec acteurs aussi très innovants. Hein. On sait que, alors sous l'impulsion évidemment d'Octave Clabat, son fondateur, mais il y a Michel. Décidément, on a du mal avec les noms ce soir. Michel Paulin, voilà.
Michel Paulin,
directeur général qui fait pas mal, un très bon boulot aussi derrière tout ça. Ils sont en train de monter en gamme aussi. Hein. Oui. Alors, moins vite que, parce que les moyens ne sont pas les mêmes. Il faut convaincre aussi, ils ont un peu plus de mal à convaincre les clients, hein, qui souvent s'assurent un peu comme à la grande époque. Je prends pas de risque, je vais chez Microsoft. Ben là, c'est vrai, beaucoup d'entreprises, je prends pas de risque, je vais chez Google, Azure ou Amazon. Là, voilà, il y a des choses qui commencent à être faites. Ils ont aussi les normes, les Secnum Cloud, enfin voilà, ils ont tout ce genre de choses. Fred, oui, c'est quand même à saluer.
Ils mènent leur petit bonhomme de chemin plutôt bien. Alors c'est vrai que l'année dernière a été très mauvaise, ils ont quand même beaucoup perdu en bourse. Là, aujourd'hui, vu les bons résultats, meilleurs qu'attendus, en bourse, la bourse, c'est
plus 15%.
C'est plus 15% aujourd'hui. Donc, c'est très bien. Ils ont... C'est une niche, hein. On a vu tout à l'heure les graphiques avec 32% pour Amazon, 28%. On n'est pas là avec OVH et on sera sans doute jamais là. Mais ils ont pris leur niche. Alors, sans doute sur le low cost, hein. Ils sont moins chers que ses grands concurrents. Moi, je pense à Atos quand même quand je vois le succès d'OVH et je me dis, OVH a mis le paquet sur le cloud public. Pourquoi Atos n'est pas allé? Pourquoi Atos n'a même pas racheté OVH? C'est quand le succès d'OVH, c'est aussi un peu l'échec d'Atos qui n'a pas pu, alors qui n'aurait peut-être pas pu le faire à l'époque, hein, à l'époque de Thierry Breton, c'était peut-être pas possible. Mais c'est vrai que dans les années 2010-2012, quand il a fallu prendre ce pli, plutôt que de rester sur le cloud privé qui était un peu la vache à lait d'Atos, eh bien, on voit que il y a des pépites françaises qui se sont engouffrées là-dessus, sans même parler des géants comme Amazon, hein, parce qu'en 2010, Amazon, c'était pas grand-chose le cloud non plus, hein, au moment où Atos aurait pu tourner.
Ils arrivent, et c'est vrai que j'ai regardé leurs chiffres. Au niveau cloud public, ça marche plutôt pas mal. Au niveau
cloud privé
ils,
aussi,
ils arrivent à augmenter, c'est-à-dire sur un même client. Sur un même client, on arrive à lui vendre un peu plus de services. Et ça, c'est tout à l'honneur, justement, de l'équipe dirigeante qui est vraiment en train de monter en gamme. Donc, nous, on a toujours, alors, on leur a mis quelques coups sur les doigts quand il le fallait, mais on salue aussi toujours leur réussite. Et puis, le fait quand même que ça fait partie de nos acteurs français, européens. En ce moment, qui marche plutôt bien aux États-Unis. Donc, saluons en tout cas ce bon trimestre d'OVH Cloud. On espère qu'on repart dans une dynamique très positive. Surtout qu'on voit en France l'histoire des data centers, tout ça est en train d'évoluer. On voit qu'Iliad cherche à se séparer de ces data centers. SFR, donc, qui appartient à Altice comme BFM Business, on est en train d'être racheté par CMACGM. Bon, on était dans cette maison-là. SFR, mais ça, c'est un autre sujet. SFR a revendu ses data centers. Donc, on voit quand même que le business model n'est pas forcément évident.
Juste une rectification, j'ai dit 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'était sur le dernier trimestre. Oui. C'est-à-dire qu'OVH est en passe de dépasser le milliard d'euros de chiffre d'affaires en annuel. Si on continue, et certainement on va continuer sur les taux de croissance comme ça. Donc, c'est une entreprise
plus que les prévisions.
Voilà, une entreprise qui va devenir milliardaire dans la tech, et on n'en a pas tant que ça en France.
Allez, on attaque ce dernier sujet, des chercheurs japonais qui greffent une peau organique sur un visage de robot. Alors là, je vous conseille de regarder, si vous nous écoutez en radio, basculer en télévision, parce que...
Ou l'inverse.
L'inverse, si vous avez un peu peur d'avoir mal au cœur. C'est vrai, tu as raison de le préciser, Didier. Alors, qui veut démarrer, Didier,
sur c'est une expérimentation qu'ont fait des chercheurs japonais, et en fait, ce qui les intéresse, c'est pas seulement d'avoir créé ce tissu qui reproduit un peu le tissu humain. Là, on voit je ne sais pas si les gens peuvent voir les images, mais en fait, tout le challenge, c'était de faire en sorte que cette peau soit bien maintenue par la surface métallique du robot, de manière à ce qu'elle puisse adopter différentes expressions.
Oui, comme un visage.
Visage. Et donc, toute l'idée, c'était de savoir... ils ont utilisé des espèces de micro-collages qui leur permet de simuler les zygomatiques, les machins.
Oui,
les
parce trucs. Qu'aujourd'hui, lorsqu'on c'est déjà arrivé de faire une peau artificielle, mais voilà, c'est tout à fait lisse.
Voilà.
On voit juste il sourit, il parle, ça bouge un peu, mais voilà.
Voilà. Donc là, l'idée, c'était de voir comment ça marchait. Et en plus, il y a un deuxième challenge derrière, c'est que le tissu qu'ils ont utilisé pour créer cette épiderme est un tissu autoréparateur. Donc ça va leur permettre de tester aussi le fait. Cette aptitude à s'auto-réparer en cas de problème, si jamais il y a des...
Mais le but, c'est quoi? C'est d'habiller, entre guillemets, d'humaniser un peu ces robots?
Les Japonais, ils sont très... Ouais. Comment dirais-je? Omnubilés par l'aspect Android des robots. Ouais. On le sait, hein, donc tout ce
ils ont une population vieillissante, avec donc, moins d'aide pour accompagner les
c'est un peu ça,
âgées.
Leur ambition, c'est de créer des robots humanoïdes crédibles, donc qui seraient capables effectivement d'imiter les expressions humaines pour traduire de la sympathie, de l'écoute, et plaire effectivement à une personne, à une population vieillissante, aux personnes âgées surtout. Maintenant, on n'en est pas là. Ouais. Cette démonstration, elle est effectivement un peu...
Elle est expérimentale, voilà.
Elle est expérimentale.
Mais est-ce qu'on pourrait imaginer aussi cette peau organique, elle puisse servir après pour des humains,
Oui, je pense que c'est ça, oui, absolument.
Parce qu'il y a les deux axes.
L'idée, c'est pas de s'arrêter là.
Moi, je la veux pas. Hein.
On verra quand tu seras grand brûlé, si t'as pas le choix.
Non, mais c'est vrai qu'on dirait là. Alors, pour ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent plutôt, on dirait une espèce de blobfish, vous savez, recouvert de malabar avec les yeux de Bob l'éponge. C'est un petit peu ça l'idée. Donc, on n'est pas encore dans quelque chose de réaliste, mais je crois que c'est surtout un but de recherche scientifique, c'est de savoir un petit peu comment évolue la peau, comment se forment les rides, comment la peau se régénère. C'est plus de la recherche que, enfin, d'après ce que j'ai cru comprendre, j'ai pas encore mis l'article japonais dans Google Trad, plutôt que d'imaginer recouvrir ça vraiment de vrais robots pour avoir des machines hyper réalistes qui pourront générer de l'empathie. Là, on est quand même très loin d'avoir de l'empathie pour cet objet-là.
En cinq minutes, on a trouvé trois débouchés quand même, des robots un peu humanoïdes, une peau qui puisse être travaillée, pour l'utiliser, et puis une peau qui puisse un jour peut-être remplacer.
Il y a une volonté quand même. Enfin, Didier disait, il y a une volonté de certaines personnes, notamment de certaines populations en Asie, de rendre vraiment humain l'aspect des robots. Et c'est ce vers quoi on tend. Là, on se moque parce que ça paraît peu ubuesque l'essai, mais dans 5 ans, dans 10 ans, peut-être même dans moins, on arrivera à des résultats. Et quand on sera à ces résultats, il faudra quand même se poser des questions aussi sur quel usage après on va faire de cela. Parce que là, on rigole de ça, mais le jour où ça existera vraiment, est-ce que
on se sera posé des questions? On parle beaucoup des parcs de loisirs, souvent, justement, dans les parcs de loisirs, d'avoir ces robots.
C'est Monde Ouest, c'est ça?
C'est Monde Ouest, voilà, pour l'air plus ancien. Parce que je crois qu'ils ont sorti la version série, je sais pas, elle s'appelait comme ça aussi, la version série, je crois qu'elle avait un autre nom. Et pour les plus anciens, c'était Monde Ouest. Breeder,
Westworld,
justement.
Non?
Westworld. C'est pas la même génération.
C'est Yul Brynner qui était. Voilà. Les gens allaient dans des parcs d'attractions. Il y avait un environnement western, un environnement château fort, Moyen-Âge, et puis je sais plus quel était l'autre environnement.
Ils avaient le droit de tuer tout ce qu'ils voulaient c'était des robots.
On se lâchait complètement d'un point de vue sexuel. Enfin, tout. C'était complètement le délire pour les humains. Et un jour, les robots se rebellent. Et donc, Yul Brynner.
Et tu vois, ce qui est assez fou quand même, c'est que tous les. Enfin, c'est bête à dire, mais c'est vrai, tous les scénarios de science-fiction qu'on nous vend depuis 30, 40 ans, en fait, se réalisent, en tout cas, se matérialisent en envie, et demain se matérialiseront en projets extrêmement concrets. Et c'est assez fou quand même de se dire aussi à quel point le cinéma, à quel point les livres, la culture étaient,
Les inventeurs ne vivent pas en dehors de la société. Ils regardent aussi ces séries, ils lisent aussi ces bouquins, et ça les inspire. Hein.
Oui, mais c'est absolument
pour le bien, pour le mal.
C'est fou de se dire ça, parce qu'on dit souvent, c'est les maths, c'est les ingénieurs qui dirigent. Évidemment, mais quand même, à chaque fois, il y a tous ces créatifs, ces mondes du littéraire, etc., qui représentent des sources d'inspiration.
Mais je trouve que pour l'accompagnement, hier, on parlait de OpenAI qui a retardé un peu la sortie de son chatbot vocal émotionnel, un chatbot vocal, parce que le ChatGPT 4o parle, mais il y a pas, une voix un peu synthétique, standard. Ils sont en train de travailler sur quelque chose d'un peu plus émotionnel. Et c'est vrai qu'on se retrouve quand même parfois à parler à son, même en clavier, à son PC, à cette intelligence artificielle, de façon assez naturelle, à avoir des conversations, sur des échanges pro, tiens, corrige-moi ça, tiens, je voudrais rechercher ça, donne-moi. Et parfois on n'oublie pas que c'est une machine, mais on s'imagine que ces robots, une fois qu'il aura un aspect humanoïde, il y aura quelques questions, non?
Alors moi déjà, je suis toujours poli avec les chatbots, je dis toujours merci, bonjour. Enfin, d'une empathie naturelle avec un petit carré. Donc j'imagine quand ça aura.
Mais Laurence de Villers, éminente chercheuse dans la nuit de l'IA que vous pouvez voir en replay, elle nous a dit c'est mieux de leur demander s'il te plaît, merci. Et c'est vrai que moi je le fais maintenant et je vois que il y a toujours une petite phrase de politesse en plus.
Bah, quand on voit comment on se parle souvent sur les réseaux sociaux en traître humain, si on se dit qu'on peut faire un petit effort avec des machines, on en fera peut-être derrière avec des gens à qui on s'adresse sur Twitter ou autre, en disant bonjour, au revoir, merci beaucoup.
Bon, en tout cas, on va suivre cette expérience des Japonais, mais je pense beaucoup, je reviens pour la première idée de ce que disait Didier, c'est vrai qu'au Japon, en tout cas, des robots aidants, des robots accompagnateurs, avec cet aspect humain, oui, pour accompagner toute la population qui vieillit, avec beaucoup moins de gens pour accompagner dans les services, pourquoi pas, dans les hôpitaux, on commence à voir ça, et c'est vrai que c'est plus agréable d'avoir quelque chose qui a une forme humanoïde ou pas, mais qui a au moins un visage un peu plus expressif. Il faudra s'y habituer aussi. On verra si c'est notre génération ou si c'est celle qui nous suivront. Merci à tous les trois. Merci infiniment d'avoir été aussi dynamique sur tous ces sujets. Frédéric Bianchi, journaliste BFM Business, que l'on retrouve tous les jours. T'es sur quoi en sujet en ce moment?
Beaucoup de politique et de macroéconomie.
On en reparlera.
C'est moins rigolo que
étonnant.
Étonnant. Didier Sens, journaliste tech. Merci encore à toi, Didier. Et Claudia Cohen, journaliste au Figaro. D'ailleurs, une interview retrouvée. On n'en a pas parlé ce soir parce qu'on en avait déjà parlé avec Jérôme Colombin. Tu as interviewé
Yoshua
Bengo. Voilà.
Oui, sur les risques, les opportunités de l'IA sur le marché du travail.
Voilà, à retrouver évidemment dans le Figaro. Merci à tous les trois. Nous, on reste ensemble dans un instant, le Tech Flash de Léa Benaïm, et puis ensuite c'est Motorola qui nous sort une nouvelle version de ses smartphones à écran pliant, et puis on partira en l'air avec ses avions électriques. Il faut y croire, vous allez voir pourquoi il faut y croire, vous le verrez en restant avec nous. Allez, restez avec nous sur BFM Business.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.